Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valence.
Toujours dans la bonne humeur, comme chaque samedi sur Sud Radio jusqu'à 10h, on parle de votre logement avec le fondateur de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valence. Bonjour.
Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous.
Bonjour à tous, bon, au programme aujourd'hui.
Au programme, on va parler peut-être d'une alternative à la crise du logement, Jean-Marie. Voir comment on peut transformer des bureaux en logement. Il y a une masse incroyable de mètres carrés à transformer, on verra, avec un grand spécialiste qu'on va recevoir tout à l'heure sur le plateau. Il s'appelle Mathieu Descoux, il est le patron d'Emetam.
On va aussi parler des questions que nous ont posées nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300 avec Bérénice de Villefleurio.
Bonjour. Bonjour Jean-Marie. On va parler de la condition suspensive pour un prêt immobilier.
Ah, très important. Grégoire Daricot va nous parler du chantier du siècle. Bonjour
oui.
À vous.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Au programme de la semaine, le photovoltaïque, Jean-Marie, l'État l'a décidé, les aides seront moins importantes et le rachat de l'électricité par EDF sera moins intéressant, mais on verra avec Laurent Permas pourquoi ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ouais. Et puis on fera le tour de France, des biens coup de cœur, on ira à Chartres, et puis en fait, pas en France, mais au Japon.
Au Japon, pourquoi pas? Mais la Beauce, c'est beau aussi, sachez-le. Quoi qu'il en soit, on commence par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefleurio et Sylvain Lévy-Valency.
Alors on va commencer le programme des news. Cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? On a pas mal d'infos quand même.
Eh bien, alors au programme, qui sont ces Français multipropriétaires? Peut-on perdre un terrain hérité de sa mamie? Et attention, encore trop de personnes se font arnaquer avec des panneaux solaires jamais installés. Par exemple, je vous parle de la technique des malfaiteurs.
Ah oui, on commence avec le profil des Français qu'on appelle les multipropriétaires.
Oui. Qui sont-ils? Quels sont leurs secrets? Rentiers ou épargnants? Non, moi je suis...
Oui, Jean-Marie, dites-nous tout.
L'INSEE vient de publier une étude, elle est tombée cette semaine. 27,6 millions de Français sont propriétaires, hein, seuls ou en commun, de 29,2 millions de logements. Donc forcément, il y a des multipropriétaires. Donc il y a 10 millions de Français qui possèdent au moins deux logements. Donc c'est ce qu'on appelle des multipropriétaires. Mais attention aux clichés, la majorité d'entre eux, donc 6 sur 10, n'en ont que deux. Donc leur résidence principale, leur logement, et un petit appartement à côté à louer ou une petite maison à la mer. En gros, les gros investisseurs, eh bien, c'est une minorité. Alors seulement 3% des multipropriétaires possèdent les fameux 10 logements ou plus. Vous savez, ceux qu'on voit avec des cigares, etc. Eh bien voilà, ils sont que 3% et ce sont eux, bien sûr, qui tirent le plus leur épingle du jeu. Leur niveau de vie médian dépasse les 41 000 euros par an contre 28 900 pour ceux qui n'en ont que deux.
Alors vous êtes en train de nous dire que les multipropriétaires, c'est des riches en quelque sorte?
Oui, mais pas tant. Si
on prend les normes des revenus médians, effectivement, on peut les qualifier comme tels. Mais c'est qui exactement ces multipropriétaires?
En règle générale, d'après l'INSEE, l'accession à la propriété se fait au fil du temps. Donc c'est plutôt des gens autour de 60 ans. C'est à cet âge-là qu'on cumule le plus. Hein, près d'un tiers des 55-65 ans sont multipropriétaires. Et autre chiffre intéressant, les femmes représentent 49% des multipropriétaires, mais seulement 40% de ceux qui détiennent 10 logements ou plus. Donc il y a un peu plus d'hommes. Et côté géographie, plus on descend dans le sud, plus la multipropriété augmente. À Paris, en Corse, en Haute-Savoie, plus de 8 logements sur 10 sont détenus par au moins un multipropriétaire.
Alors c'est lié à de l'épargne, on se constitue comment ça?
Tout à fait.
C'est de l'endettement finalement.
C'est plutôt de l'épargne accumulée au fil du temps.
Alors on va parler aussi, c'est vrai, c'est incroyable, un héritage oublié?
Oui, alors c'est une info qu'on ne vous donne pas souvent, mais elle peut vous coûter très cher. Si personne ne réclame un terrain hérité pendant 30 ans, eh bien sachez qu'il devient propriété de la commune. C'est ce qui est arrivé récemment, une femme donc est décédée, une vieille dame, en 1986, et elle possédait 3 terrains. En 2016, personne ne s'est manifesté, donc la commune les a récupérés au titre, je cite, de « bien sans maître ». Et bien, les descendants se sont manifestés, ils se réveillent en 2020, 4 ans après.
Trop tard.
Mais trop tard. Et même si l'un d'entre eux a payé la taxe foncière, ça n'a pas suffi à prouver la succession, en fait, la Cour de cassation a statué. Donc si vous avez un terrain de famille quelque part, ne le laissez pas traîner, ne laissez pas traîner
en
la
fait,
succession.
Au bout de 30 ans, il revient dans le domaine public.
Exactement.
Alors, bien 100 mètres, c'est pas avec un E, mais c'est un AI, hein, 100 mètres.
Un bien 100 voilà. mètres, voilà. 100 mètres, vous avez raison.
Absolument. Voilà, c'est pas 100 mètres carrés, c'est
ni plein les poches.
Voilà,
c'est ça.
On est d'accord. On va terminer avec les arnaques aux panneaux solaires. qui sont encore malheureusement, on en parle souvent avec Laurent Permas, oui, trop nombreuses. Hein.
Et là, c'est l'UFC Que Choisir qui a alerté cette semaine, qui dénonce les pratiques abusives du démarchage à domicile avec un chiffre choc. Près de 1000 litiges depuis 2018, hein, 20 millions d'euros de préjudice estimés et une moyenne de 20 000 euros par dossier. Et ça, c'est que pour les litiges traités par les associations UFC Que Choisir.
Hein. Alors justement, Bérénice, c'est quoi ces techniques de malfaiteurs?
Alors c'est redoutable, mais simple. On sonne chez vous, quelqu'un se fait passer pour un opérateur public, souvent. On vous parle de primes, de rénovation à euros, et hop, vous signez un contrat dans la journée, parfois même un crédit pour des travaux qui ne seront jamais faits. Là, il y a récemment, il y a un particulier qui a dépensé 60 000 euros pour des panneaux solaires qui n'ont jamais été installés. Et ça arrive tous les jours, alerte l'UFC, notamment chez les personnes âgées. Donc, il faut retenir une chose. Si jamais on vous demande de signer tout de suite, fuyez, faites-les partir chez vous. Déjà, n'ouvrez pas la porte à ces inconnus. Et puis, il faut savoir que l'UFC demande maintenant l'interdiction totale du démarchage à domicile dans ce secteur. Donc, pour tous les conseils, écoutez Laurent Permas chez nous chaque
absolument
samedi.
Et heureusement qu'il est là.
Il ne sonnera pas chez vous.
Voilà.
Merci à vous, Bérénice de Villefleurio. Allez rester avec nous, Sylvain Lévy-Valency. Une solution à la crise du logement, sérieusement?
Oui, c'est vraiment. Il y a plusieurs millions, dizaines de millions de mètres carrés qu'on peut réadapter pour en faire du logement. C'est les bureaux vides.
Mais je vous vois vous transformer en porte-parole du droit au logement, mon cher Sylvain Lévy-Valency, qui l'eût cru. Vous allez nous raconter ça dans un instant avec votre invité. À tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
Avec Sylvain Lévy-Valency et son invité.
Oui, merci Jean-Marie. Bonjour Mathieu Descoux.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Il y a quelques mois, vous vous associez avec la société Emerige pour lancer une toute nouvelle entreprise qui s'appelle Emetam, avec une idée en tête, travailler la transformation de bureaux en logements. Alors, transformer les bureaux en logements est souvent présenté comme une solution, une bonne alternative, une très bonne alternative à la crise du logement, ça a été démontré. Pourquoi, en quelques mots?
Pourquoi? Parce que le foncier est rare, parce qu'il y a une crise majeure dans le bureau et une pénurie de logements. Si on reprend quelques chiffres, hein, pour ne pas noyer vos auditeurs dans les chiffres, mais rien qu'en Ile-de-France, c'est 5,6 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides, avec une perspective de que ces mètres carrés aillent jusqu'à 10 millions. Et à côté de ça, vous avez une pénurie très forte du logement. On a, et je ne sais pas si vos auditeurs se rendent compte, mais il faut remonter à 1954 pour comparer les chiffres des permis de construire qui ont été acceptés pour créer du logement. Les permis de construire, c'est le logement de demain. Donc vous avez une suroffre de bureaux, une pénurie de logements. Vous rajoutez à ça tout ce qui est Lausanne, qui empêche l'étalement du
donc
territoire.
Donc Lausanne, c'est zéro.
Zéro artificialisation nette.
C'est qu'en fait, on peut plus construire réellement et s'étaler malgré la démographie de notre pays.
Exactement. Il faut faire la ville sur la ville. Les bureaux n'ont plus de preneurs, donc les bureaux deviennent une source de foncier nécessaire pour le redéveloppement.
Alors, on voit que c'est une très bonne alternative. C'est vrai, on l'a vu, nous, chez Radio Immo, également sur des opérations très concrètes. On avait reçu ici sur le plateau Blaiserteux, la place de l'immobilier, qui avait estimé d'ailleurs la détention en volume de mètres carrés à 173 millions de mètres carrés, et qui avait fait une estimation France, et, donc tout territoire confondu. On est sur des chiffres absolument vertigineux. Franchement, la première chose qu'on se dit, on se dit, mais voilà la solution. Le bâti est déjà bâti, on a des immeubles obsolètes, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout de destination, qui sont plus louables, dans toutes les villes de France. Pourquoi c'est si long à mettre en place ?
C'est long parce que il y a plusieurs leviers à ça. Il y a le levier économique, l'acceptation politique qui est souvent difficile. Un immeuble de bureau, le maire, quand on le transforme en autre chose, un immeuble de bureau, c'est l'attractivité de sa commune. Donc le voir disparaître et transformer, ça peut être un problème.
Donc le maire peut s'opposer au fait de transformer l'immeuble qui est vide, qui sera pas loué parce qu'il est plus adapté, à des logements, il peut s'y opposer.
Il peut s'y opposer. Il est maître de ses permis de construire. Il est maître de son PLU avec le territoire. Mais de plus en plus, il est lui le guichet unique des gens qui demandent des logements. Donc petit à petit, l'acceptation politique est en train de se mettre en place. Après, vous avez le volet économique. Les propriétaires actuels des bureaux ne se laissent pas faire. Considèrent que même si ces bureaux n'ont pas beaucoup de valeur, les expertises de ces dites bureaux constitue un manque à gagner, une perte. Il faut accepter de réaliser une
même
perte.
Même si c'est vide.
Même si c'est vide.
Même si c'est insuffisamment loué.
Exactement. Aujourd'hui, il y a une décorrélation des valeurs d'expertise entre le bureau vide qui existe et la vraie valeur marchande pour cette transformation.
Alors, la rentabilité est un sujet important. L'un de vos collègues, confrères, nous a dit le problème, c'est que à la sortie, ça coûte plus cher que si on construisait ex nihilo. C'est-à-dire à partir de rien, à partir d'un terrain, si on construit, ça coûte moins cher que si on réadapte ou on rénove. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a un débat sémantique sur qu'est-ce qu'est de la transformation de bureau en logement. Il ne faut pas voir le bureau comme tel, il faut le voir comme de la charge foncière et une capacité constructible. Évidemment, quand on peut le faire, certains bureaux se prêtent à de la transformation en l'état. Les tailles, les épaisseurs de bâtiments font qu'on peut avoir un usage en logement très, très évident. D'autres ont été conçus pour être des bureaux. On ne concevait pas la réversibilité à cette époque-là. Donc, les bureaux sont très larges, donc il y a une perte de surface évidente et le coût de la transformation est entre 15 et 20% plus cher que de la démolition reconstruction.
Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'échelle encore.
Aujourd'hui, on n'est pas encore à l'échelle, mais tout dépend de la valeur d'entrée, à combien on achète ces bureaux.
Mathieu Descoux, qu'est-ce qui ferait que justement on puisse gommer le fait que ça coûte plus cher? Est-ce que si on massifie, c'est-à-dire que, industrialise, si vraiment il y a un mouvement de fond de récupération, moi je les vois, ces immeubles qui sont vides, ça fait mal au cœur quand on sait que les Français sont mal logés, est-ce qu'on peut arriver à cela ou pas? Ou est-ce que c'est un vœu pieux?
On va arriver à ça, parce que cette polarisation du bureau, c'est-à-dire ces bureaux qui ne trouvent pas de preneurs, donc qui seront vides indéfiniment et donc qui coûtent cher, vont être vendus à un bon prix, première condition. Les maires n'acceptent pas de voir des bureaux vides avec des panneaux à louer, on a un problème d'attractivité,
oui,
donc
d'accord.
Ils vont autoriser cette transformation, et le législateur a mis à notre disposition notamment un très bon article qui s'appelle l'article L252-6 qui en fait regroupe les lois Allure et Élan et qui permet de démolir et reconstruire dans le volume existant des bâtiments au-delà du plan local d'urbanisme, donc de travailler dans le volume de l'existant avec une surconstructibilité de 30%.
Alors justement, mais c'est bien ce qu'a prévu effectivement dans le texte la ministre du Logement Valérie Létard, qui a placé cette transformation d'ailleurs, vous le savez, dans son plan d'action pour encourager ce type d'opération, notamment avec la loi Daubier qui accélère énormément. Donc c'est exonération de la taxe sur les bureaux pour les propriétaires qui déposent un permis de construire en vue de cette reconversion. Donc là, quand on a un bâtiment un peu vide, ça a quand même du sens. La création d'une taxe d'aménagement spécifique que pourront percevoir les élus locaux. Donc du coup, vous leur proposez d'avoir, j'allais dire, une charge fiscale qui leur permet d'avoir un relais. Bonus de constructibilité que les élus locaux peuvent offrir, qui peuvent aller jusqu'à 30% de la production de bureaux en logement sur un site. Assouplissement des règles d'urbanisme. Création d'un permis de construire à destination multiple. Ça a été le cas pour les JO, par exemple. Tout ça, c'est acté.
Tout ça, c'est acté et tout ça va dans le très bon sens de l'objectif qui est justement la massification de ces transformations. On aide l'élu à accepter. On l'aide avec des recettes fiscales qui permettent de financer les équipements. On gomme ce surcoût par ce fameux L252-6 et donc ces 30% de constructibilité en plus. Et finalement, tout le monde s'y retrouve et donc on va aller vers cette démocratisation de ce qui est aujourd'hui une niche.
Alors les chiffres, vous les connaissez, 2 500 000 foyers aujourd'hui sont en attente de logement. Ils vivent dans des situations extrêmement compliquées. On peut même dire de grande précarité. C'est 4,5 millions de foyers qui sont dans des situations, j'allais dire, relative précarité de logement, notamment l'insuffisance de l'espace pour les enfants ou de chambres. On a un vrai sujet. Et vous aviez tout à l'heure dit qu'on est les mêmes autorisations d'urbanisme que dans les années 50, c'est vrai, sauf qu'il y a 25 millions d'habitants supplémentaires. Et qu'il faudra bien les loger. Est-ce que, justement, compte tenu de ces perspectives, vous venez de créer Emetam avec un acteur majeur qui s'appelle Emerige. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Emetam part sur une lancée, on va dire, plutôt positive et constructive? Vous avez déjà des opérations en cours?
Oui, alors nous, on existe depuis 6 mois. On a déjà signé 3 opérations. On va fabriquer pour plus de 400 logements sur ces opérations.
Déjà, ah oui, c'est...
Donc ça marche, évidemment. Il faut le temps des autorisations administratives. En Ile-de-France et sur la Côte d'Azur, puisque là où en fait ça marche, la transformation de bureau en logement dans les zones tendues, là où ce besoin de logement est nécessaire.
Alors justement, question, quand on parlait du prix de sortie, on parlait ce qu'on appelle quand vous financez le logement, est-ce que justement vous adaptez éventuellement le logement sur du LLI, vous savez, le loyer logement à loyer intermédiaire. Est-ce que vous utilisez tous ces dispositifs pour permettre aux personnes de mieux se loger?
Bien sûr, il faut quand on conçoit un projet de logement, il doit être adapté aux besoins, et ça va du logement social et des classiques au logement intermédiaire qui est aujourd'hui un vrai relais et a été très accepté par les villes et correspond à un vrai besoin de la population, au logement libre, en prenant en compte le marché actuel. Donc on n'est pas dans la surenchère de futures offres, et voilà à peu près, et aussi en passant par le logement étudiant, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est logement géré, parce que les étudiants aussi souffrent du mal logement dans les zones tendues.
À suivre, Emetam, merci Mathieu Descoux, je rappelle que vous en êtes le président, avec beaucoup d'illustres, pour trouver d'ailleurs Emetam, E-M-E-T-A-M, sur internet, si vous voulez avoir plus d'informations, merci à vous.
Merci à vous, et bravo surtout, hein, c'est une sacrée panoplie d'offres de services. Merci à vous, Sylvain-Lévy Valency, restez avec nous, on se retrouve dans un instant, le répondeur de Sud Radio, avec une question qui porte sur...
La condition suspensive d'exemption du prêt.
On en parle dans un instant.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente...
Sud Radio, parlons immo, Sylvain-Lévy Valency.
On parle de votre logement sur Sud Radio jusqu'à 10h, et on répond aux questions que vous nous avez posées au 0826 300 300.
La Massif présente
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Beaucoup de questions en effet sur le répondeur de Sud Radio cette semaine, Bérénice de Villefleuriot.
Et oui, Aurélie de Besançon dans le Doubs nous a posé une question. Alors, elle nous a demandé, quand on achète un bien, on entend souvent parler de la condition suspensive de prêt immobilier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle, elle compte acheter. Et si jamais on n'obtient pas le prêt, que se passe-t-il? Est-ce qu'on perd tout? Est-ce que la vente tombe à l'eau? Alors, pour y répondre, on accueille notre experte, Nathalie Cousigoussuas, qui est notaire et donc qui connaît bien les conditions suspensives de prêt. Bonjour maître.
Bonjour à tous, bonjour Bérénice et Sylvain.
Eh bien, ravie de vous recevoir. Alors justement, c'est vrai que la condition suspensive de prêt, vous la voyez très régulièrement. Comment ça se passe? Alors, il faut signer un compromis de vente, hein, c'est ça?
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on signe une promesse de vente, en fait, l'acheteur, enfin le bénéficiaire de la promesse, il va verser généralement 5%, ce qu'on appelle le prix de l'immobilisation, 5% du prix.
Du prix du bien.
Du prix du bien. Donc, il immobilise le bien, donc il verse 5%. Mais la réalisation de la vente, elle est conclue sous la condition que l'acheteur obtienne son prêt. C'est-à-dire que si Aurélie n'obtenait pas son prêt, eh bien, elle serait dégagée de tout engagement, elle ne perdrait rien.
D'accord. Donc, en si par exemple, sur un bien à 200 000, pour qu'on s'illustre bien, c'est 5%, c'est 10 000 euros. Donc, il y a 10 000 euros qui sont immobilisés chez vous, chez le notaire.
Exactement. Sur la caisse des dépôts et consignations. Et en fait, le sort de ces 10 000 euros, ben, quel est-il? Soit Aurélie obtient son prêt, ben, tout va bien. Ces 10 000 euros vont venir en déduction de ce qu'elle va devoir verser le jour de la réalisation de la vente. Du coup, enfin, c'est qu'une avance qu'Aurélie aura faite. En revanche, si Aurélie n'obtient pas son prêt dans les délais requis qu'on lui a donnés, eh bien, dans ce cas-là, on lui restitue ses 10 000 euros et tout le monde, en fait, aura perdu le temps qu'Aurélie n'obtienne pas son prêt.
Mmh. Et souvent, les vendeurs ne sont pas contents. Ouais. Le droit la protège, les vendeurs, dans ces cas-là, ne sont pas très contents. Est-ce qu'on peut faire sans cette condition suspensive?
Alors, bien sûr qu'on peut faire sans, mais c'est très dangereux, bien sûr. Et puis, si en plus, l'acquéreur arrive à démontrer qu'on lui a forcé la main, eh ben, elle pourra toujours la faire prévaloir. Donc, il faut vraiment, moi, ce que je conseille à nos clients acheteurs, c'est d'aller faire, en fait, avant d'aller voir son banquier pour voir quelles sont les capacités d'emprunt. Il vous délivrera pas une offre de prêt, hein. Il le fera que au vu d'une promesse. Mais d'aller voir son banquier pour voir ses capacités d'emprunt et ensuite s'engager avec une promesse qui comprend ses conditions d'obtention de prêt.
D'accord. Et juste en termes de délai, en général, l'acquéreur a combien de temps pour obtenir un prêt?
Alors, la loi, elle donne un délai minimum de 30 jours. Mais souvent, les notaires, étant gens prudents, donnent environ 2 mois, 45 à 60 jours, parce que les banques, en ce moment, ont beaucoup de dossiers. Et du coup, ça prend beaucoup plus que 30 jours. Mais du coup, il faut que, quand on est bénéficiaire comme ça d'une promesse de vente avec une condition suspensive, bah, il faut bien indiquer le montant dont on a besoin, le taux auquel on compte pouvoir acquérir, le délai, et vraiment faire tout très vite, parce que vraiment, il y a le délai de 2 mois, ça semble très long, mais en fait, c'est très court pour obtenir son prêt. Mmh. Et si vous ne l'obtenez pas, ce prêt, eh bien, votre vendeur, il va pouvoir dire, prouvez-moi que vous avez fait les délais dans les temps. Mmh. Donc, généralement, on vous oblige à prouver que vous avez déposé vos dossiers dans les 10 jours de la signature de la promesse.
Eh bien, merci beaucoup, maître. Et je rappelle qu'une promesse de vente se signe chez le notaire, hein, parce qu'on avait eu aussi des questions là-dessus. Merci beaucoup, maître.
Merci, bonjour à tous. Au revoir.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Et vous aussi, vous laissez vos messages au 0826 300 300. On y répond avec nos spécialistes. Tout de suite, le chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Grégoire Darico.
Bonjour Laurent Permas.
Bonjour Grégoire.
Merci beaucoup de nous accompagner. Laurent, cette semaine, on va parler de la baisse des aides pour le solaire, une baisse qui a été confirmée. Alors, on parle d'une prime à l'installation qui a été divisée par 2, d'un tarif rachat divisé par 3. En fait, on voit passer beaucoup d'infos. Mais c'est pas tant que ça une mauvaise nouvelle. J'aimerais qu'on en parle en détail avec vous.
On va essayer de l'éclaircir, en effet, et rentrer dans le détail. Alors, le solaire, c'est une histoire d'amour pour les Français. Vous avez notamment, pour l'énergie renouvelable, plus d'1 million d'installations en 2024, plus 13% par rapport à 2023. Donc, on voit qu'il y a un engouement fort. Et, en effet, le 28 mars 2025, un décret est sorti, le S21, pour être plus technique, c'est le fameux coupable. Et donc, il va modifier en effet la prime versée un an après l'installation de panneaux solaires pour les Français. Et puis, il modifie aussi le prix de rachat de la surproduction par EDF. C'est votre fameuse revente. Donc, c'est une évolution réglementaire, mais on va voir un peu plus en détail.
Exactement. Rentrons dans les détails de ces changements, Laurent, s'il vous plaît.
Alors, c'est une baisse de la prime d'installation. En fait, elle a été divisée par 2. Elle passe de 80 euros par kilowatt crête. C'est l'unité de mesure, en fait, de photovoltaïque. On pourra y revenir. Et donc, la baisse du tarif de rachat par EDF, elle est divisée par 3. Elle passe de 12 centimes d'euros par kilowatt crête à 4 centimes. Et ces deux baisses concernent notamment les installations de moins de 100 kilowatts crête. Et puis pour les projets de taille plus grande, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le tarif à la revente est stabilisé, sa hausse dépendra un petit peu de l'évolution, notamment de la future loi de finances.
Vous nous annoncez une baisse des aides, est-ce qu'elle sera compensée ?
Eh bien c'est ça la bonne nouvelle, en fait oui, elle sera compensée par une diminution de la TVA, elle passe de 20% à 5,5%, notamment à partir du 1er octobre. Alors pour les ménages qui avaient demandé leur raccordement avant le 27 mars, avant ce décret, eh bien les anciennes conditions seront appliquées. Attention, par contre c'est pas le devis qui fait foi, c'est le raccordement, c'est la demande du raccordement. Et puis, bien évidemment, les panneaux photovoltaïques bénéficient d'aides, notamment hybrides. On y reviendra, là aussi, c'est des systèmes solaires combinés. C'est-à-dire que c'est à la fois l'utilisation de l'énergie du soleil, mais aussi le chauffage, c'est de pouvoir produire en fait l'eau chaude qui consomme énormément d'électricité.
Alors Laurent, j'entends tout ce que vous nous dites, mais quand même, on est en période de crise. Qu'est-ce qui motive cette décision de l'État ?
En fait, c'est tout simplement l'autoconsommation. C'est-à-dire que l'État a voulu justement valoriser les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque, au travers de l'autoconsommation, et moins mettre les Français dans cette stratégie de faire un peu d'argent et de revendre. Et on va voir en fait que l'impact est très important, puisque lorsqu'on parle d'autoconsommation, avec le photovoltaïque hybride, qui intègre aussi le chauffage, eh bien vous pouvez aller jusqu'à 70% de votre production d'électricité. Et si on rajoute des batteries, c'est 100%. Donc on voit un impact quand même très fort de prise en charge et de diminution de la facture d'électricité.
Ça, c'est très important pour notre facture notamment. Donc au final, c'est une bonne décision.
Au final, c'est une bonne décision. L'État souhaite subventionner, encourager l'autoconsommation. L'impact de TVA de 5,5 est très fort. On passe notamment sur un chantier moyen entre 14 000 et 16 000 euros de photovoltaïque. On va passer en fait d'une facture de TVA à 3 000 euros à 800 euros. C'est un peu plus de 2 000 euros en fait d'économie. Donc on voit que le fameux point d'amortissement pour pouvoir en fait bénéficier d'une facture qui est moindre, si on utilise en plus le photovoltaïque, photovoltaïque hybride et les batteries, on est quand même dans un impact très très fort. Et n'oublions pas qu'il y a des aides de MaPrimeRénov pour le photovoltaïque hybride. Vous avez aussi le prêt à taux zéro et bien évidemment, rapprochez-vous de France Rénov.
L'éco-prêt à taux zéro.
Absolument.
L'éco-prêt, ben merci beaucoup pour cet éclairage, sans mauvais jeu de mots, Laurent Permas et Grégoire Dalle.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Bon, mais tout de suite, on prend notre voiture hybride et on fait le tour de France. Des biens coup de cœur.
Et oui, on va. Je vous propose qu'on aille visiter Chartres, mon cher Jean-Marie.
Oui, on va dans la préfecture d'Eure-et-Loir. Je vous ai trouvé une charmante maison de plein pied, une maison de 90 mètres carrés, idéale pour une famille puisqu'elle comprend 4 chambres. Elle est très bien entretenue, notre maison, en bon état. Elle se compose d'une véranda, d'une entrée, d'un double salon séjour, d'une cuisine indépendante de 4 chambres et d'une salle d'eau récemment rénovée. À l'extérieur, vous aimez bien ce terme salle d'eau,
Jean-Marie. Oui, je sais que vous êtes quelqu'un de pudique.
À l'extérieur, une cour, à l'avant, un agréable jardin à l'arrière, le tout sur une parcelle de 575 mètres carrés. Et en plus de tout cela, une cave et un garage. Bref, une maison qui en plus nous présente un diagnostic de performance énergétique de D. Une belle opportunité au tarif de 179 900 euros par l'agence La Forêt.
Et on peut le financer avec un taux de 3,5%.
Oui,
il nous en coûtera environ 760 euros par mois pour 35 000 euros.
C'est ça, 20% d'apport, mon cher Sylvain.
Si je vous dis, mon cher Jean-Marie, le pays du soleil levant, vous me répondez...
Le Japon.
Bien sûr, direction le Japon.
Alors, je vous avais parlé des maisons imprimées, je vous avais parlé de l'éolienne recyclée en logement, je vous avais parlé des paillourtes, un concept que Jean-Marie avait adoré. Laissez-moi vous parler cette semaine de Tiny House, lancé par IKEA au Japon. Une Tiny House à 1 euro pour répondre à la crise du logement qui sévit également. Tout à fait, une mini-maison. Alors, ce sont des maisons de 10 mètres carrés dans lesquelles chaque recoin est exploité avec soin, chaque meuble est pensé pour optimiser la vie quotidienne en milieu urbain, mon cher Jean-Marie.
Vous avez fait le tour du monde pour retrouver des chambres de bonne, c'est ça?
Tout à fait. Bien aménagées. Oui. Alors, parce qu'elles sont déjà sur un étage. Vous avez au rez-de-chaussée une cuisine ingénieusement agencée, un coin salon modulable et une salle de bain fonctionnelle. À l'étage, une chambre en mezzanine. Tout est fonctionnel, tout est transformable.
Attendez. 10 mètres carrés, mais sur 2 étages.
Exactement. Oui, en duplex. Ouais. C'est un duplex.
Tout est transformable en fonction de vos besoins pendant votre journée. Oui. Un tel concept qui existe déjà d'ailleurs, mais encore une ingénieuse manière de résoudre les nombreuses problématiques.
Je bois l'incrédulité.
J'ai beaucoup de respect pour le génie japonais en matière d'architecture.
Ce sont des rectangles avec un empattement au sol très faible, sur absolument, avec un étage. Incroyable.
Avec un étage. Ouais, bon, d'accord. Où est-ce que vous logez? La douche, les toilettes, le lit?
C'est bien fait. Il y en a même en France pour les femmes victimes de violences conjugales. Absolument. Il y en a qui ont été logées.
Et l'avantage, c'est que vous pouvez la transporter et la déplacer sans aucun problème, sans autorisation.
Pour la mettre dans une autre pièce de votre vraie maison, en d'autres termes. Ça s'appelle un déménagement. Merci à tous les quatre d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve mardi prochain à midi sur Radio Imo, où cette émission sera rediffusée. D'ici là, Sud Radio Parlons Imo est à réécouter en podcast sur sudradio.fr.
Nous serons en direct également le 9 avril à 19h avec notre amie Cécile de Ménibus dans les vraies voies de 19h à 20h au Musée d'art contemporain à Bordeaux.
Le 9 avril, c'est-à-dire
mardi prochain. Mercredi prochain.
On va y arriver.
On verra s'il a pris le bon billet de train ou s'il s'est trompé. En tout cas, vous l'entendrez à 19h sur Sud Radio, mercredi prochain, avec Cécile de Ménibus, qu'on embrasse très fort, évidemment. Allez, belle journée à vous et puis à très bientôt sur Sud Radio.
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.